Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou aussi en podcast sur www.awr.org ou aussi avec votre téléphone, et d'ailleurs je vous donnerai les numéros un peu plus tard. Aujourd'hui au programme, eh bien, Parole solidaire, un moment d'information humanitaire, et ensuite, pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour Parole solidaire, votre rendez-vous sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, eh bien, je reçois Héloïsa Matos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes assistante de projets internationaux chez ADRA France. Alors ADRA, je le rappelle, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et vous êtes notamment chargée d'élaborer le plan national de réponse après une urgence. Alors vous allez nous expliquer exactement en quoi ça consiste, Héloïsa, ce plan de réponse après une urgence.
Tout ça, c'est en raison du changement climatique, non? Donc, il est essentiel de préparer un plan d'intervention d'urgence en cas de catastrophe naturelle. Ce plan d'urgence vient en aide aux victimes en leur apportant un soutien pour un rétablissement plus rapide. Et pour ça, le réseau ADRA invite chaque bureau national à développer une stratégie de réponse après une situation d'urgence pour faire face aux besoins prioritaires de la population touchée, non par cette catastrophe naturelle. C'est un après-urgence parce que c'est aussi la question, c'est qu'on va faire post-urgence. Urgence,
oui, non? Parce que vous n'êtes pas des pompiers, par
voilà,
exemple.
Voilà, c'est ça. Mmh. Ça, c'est les premiers secours. Nous ne sommes pas concernés, non?
Et alors, Héloïsa, quand on vous écoute parler, on entend que vous avez un joli accent.
Ah,
qui vient d'où exactement?
Bon, moi, je suis brésilienne, non, d'origine. Et ça fait longtemps que j'habite en Europe. Et j'ai fait des études de droit. Et là, j'ai fait un stage dans le cadre d'un master à Paris 1 et la Sorbonne, dans les parcours de crise, intervention d'urgence et action de développement.
Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes chez ADRA France en ce moment.
Oui, c'est ça.
Et
c'est un rêve.
Vous venez valider votre année de master.
Oui, c'est un rêve pour moi de travailler dans la coopération internationale.
Bon, alors revenons à ce plan de réponse après urgence. Concrètement, à quel type d'urgence ce plan peut répondre, et notamment en France, Héloïsa?
Donc, la réponse, elle doit être prête à répondre, non, aux événements les plus courants dans les pays. Que selon les chiffres officiels fournis par les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les inondations sont la catastrophe naturelle la plus fréquente en France. Bah, pour donner un chiffre, entre 1982 et 2023, 56% des événements d'urgence sont dus à des inondations.
En France?
En France. À l'image, non, de celle du Pas-de-Calais, qui entre novembre 2023 et février 2024 ont laissé un lourd bilan. Des 191 communes et 2768 foyers sinistrés, selon les chiffres de la préfecture.
Et alors donc, quand se produit quelque chose de ce type-là, Héloïsa, quelle est la réponse que votre plan prévoit d'apporter sur le terrain après urgence?
Bon, nous sommes en train d'élaborer ces plans, non, visant à fournir une assistance aux victimes des catastrophes naturelles par la distribution des bons d'achat, des kits de produits de première nécessité et d'aide alimentaire en nature, en fonction des besoins de la population touchée, évidemment. Bon, pour rendre tout ça possible, nous comptons sur la collaboration de nos bénévoles et de nos antennes locales, en particulier celles qui sont les plus proches de la zone éventuellement touchée.
Alors bon, je rappelle que c'est Parole solidaire et que nous sommes actuellement en compagnie d'Héloïsa Matos, qui est chargée d'élaborer le plan national de réponse après une urgence chez ADRA France. Alors, Héloïsa, cependant, il y a un processus à respecter. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière il s'articule?
Ah oui, et bon, la préparation aux interventions, non, et en cas de catastrophe, est un processus qui s'articule autour de quatre phases fondamentales, que c'est la préparation, l'analyse, la planification. Tout ça, ça concerne l'élaboration du dossier, et la mise en œuvre de la préparation. Et là, il faut là, que l'événement ait lieu, non?
Voilà, donc il faut attendre que l'urgence soit là, et ensuite vous pouvez intervenir. Et alors justement, cette intervention, comment est-ce qu'elle se planifie exactement?
Pour avoir une bonne préparation et pour l'intervention, ADRA, elle restera d'abord connectée au système d'alerte, non, d'alerte précoce, notamment oui. Météo France, qui c'est l'alerte officielle, et pour aider à déterminer quand une réponse humanitaire peut être nécessaire. Et puis, une fois la catastrophe naturelle survenue, elle est reconnue par l'État. Et il y a une reconnaissance officielle. Et donc, nous vérifions l'échelle de la gravité officielle de l'événement. C'est-à-dire que si elle est supérieure à 2, cette échelle, ça veut dire qu'elle est grave. Et c'est là qu'on va actuer, non? Donc, pour cela, on va contacter les autorités de la zone touchée pour savoir si elles ont besoin d'un soutien extérieur. Ça va en fonction de la gravité du problème, ça va en fonction du nombre de victimes, non, de foyers touchés. Et donc, après ça, s'il y a encore ce besoin d'un soutien extérieur, on va évaluer la situation pour mieux répondre aux besoins de la population touchée.
Voilà, donc c'est comme ça que les choses vont se planifier oui. Dans le cas d'une urgence qui se présente. Donc nous avons compris, Héloïsa Matos, que ADRA est dans l'anticipation avec ce plan de réponse.
Tout à fait.
Et notamment dans l'anticipation des problématiques qui pourraient être liées au changement climatique qui s'annonce quand même.
Hein. Oui. Oui, et si on pense à cet exemple, non, et que c'est plus qu'un exemple, que c'est les inondations c'est l'événement le plus fréquent, ça sera de plus en plus fréquent,
grave.
Malheureusement, non. Et mon pays, par exemple, passe maintenant pour une situation d'inondation presque dans tout un territoire. Il y a déjà les NEMP, hein, c'est plein. National ADRA Brésil, par exemple, ADRA Brésil est en train de mise en place.
Alors, je n'aime pas terminer sur une note un peu négative, mais bon, là, on ne peut pas faire autrement. Hein, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. On parle de changement climatique partout. Et évidemment, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est justement être dans l'anticipation pour qu'il y ait le moins de gens qui soient dans des situations compliquées, difficiles à gérer.
Oui, il faut être prête à aider.
Merci pour ce travail que vous faites, Héloïsa, avec vos collègues chez ADRA France. C'était Paroles solidaires, une émission consacrée aux solidarités internationales. Nous étions aujourd'hui avec Héloïsa Matos, assistante de projets internationaux chez ADRA France. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne réussite dans votre projet professionnel.
Merci beaucoup.
Et puis à très bientôt, j'espère.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, AWR, et ici c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez rentrer en contact avec nos intervenants et leur adresser des questions. Pour cela, vous pouvez adresser vos mails à france@awr.org. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans l'émission « C'est vous l'histoire ».
C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte.
Être là comme signe de ce Dieu qui nous accompagne, quelle que soit notre situation, qui est là avec nous, quoi qu'il arrive, faire cette expérience-là, eh bien, c'est très important. Parce que l'expérience d'une présence, quand on se sent tout minable, abandonné au fond d'un lit ou souffrant ou des choses comme ça, c'est, enfin voilà, pour moi c'est impossible de laisser quelqu'un souffrir tout seul. Voilà.
Bonjour, aujourd'hui c'est vous l'histoire sort sa blouse blanche. Enfin, plus ou moins. Nous recevons Nicole Keller. Issue d'une grande famille protestante cévenole, elle est arrivée à Marseille en 2006, où elle exerce le métier d'aumônière protestante dans 4 hôpitaux publics de Marseille. Visite guidée parmi les microbes et les blouses blanches avec notre journaliste François Sergi.
Nicole Keller, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est dans les couloirs de l'hôpital de la Timone. C'est immense, hein, on s'y perd.
Ah, c'est très grand. Et là, on est dans le sous-sol, au service des cultes.
Vous avez été mis au sous-sol. Toutes les chapelles dans tous les hôpitaux sont souvent au sous-sol, en fait.
Pas toujours, mais souvent, oui. Bon, ça dépend.
Des c'est
hôpitaux,
là où c'est tranquille.
À l'assistance publique. Là, on est très bien placé. Il y a le culte israélite sur la gauche, il y a la chapelle à droite, le culte musulman un peu plus loin. Si on continue ce couloir, on va à l'espace éthique méditerranéen où il y a beaucoup de rencontres sur la bioéthique, de discussions et de recherches en bioéthique.
Nicole Keller a été aumônière d'hôpital à Poitiers et Nice avant son installation dans la cité phocéenne. Elle a accompagné et formé des équipes de bénévoles et tous les après-midi, c'était les visites aux malades dans les divers services. Mais pourquoi a-t-elle choisi de s'investir dans ce travail bien particulier plutôt que le dimanche matin dans une église? Elle répond au micro de François Sergi.
Je n'ai fait que ça. Je n'ai pas été pasteur de paroisse ni d'autres ministères spécialisés. J'ai été aumônier parce que c'est ça que je voulais faire.
Plutôt que de prêcher.
Ça m'arrive de prêcher.
Oui.
Moi, je prêche moins souvent, mais j'ai une prédication très personnalisée quand je fais mes visites. J'assimile ça à une prédication puisque c'est l'annonce de l'Évangile. Aussi la rendre quotidienne pour aujourd'hui. Voilà, rendre l'Évangile pour maintenant.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes investi dans ce ministère particulier?
Parce que c'est passionnant, parce que j'aime ce monde de l'hôpital où des gens ont pour vocation, comme métier, de soigner les autres, de se battre pour la vie, de faire tout ce qui est dans leur possible pour que d'autres personnes puissent vivre le mieux possible. Donc c'est un milieu très vivant où on rencontre les gens aussi dans leur force, puisque c'est leur travail, toute leur science, toute leur capacité pour soigner les autres. Et puis les personnes qui sont soignées aussi, qui découvrent leur fragilité, leur vulnérabilité et qui n'en sont pas anéanties. Et ça, c'est vraiment pour moi parole d'Évangile.
On voit là dans cette chapelle, il y a un recueil, un cahier à disposition des personnes qui peuvent laisser des prières. Et on voit toute la souffrance qui transparaît, mais aussi de la foi, de l'espérance, des attentes de guérison. Comment est-ce que vous faites face à toutes ces demandes et ces attentes?
Je ne fais pas face, je suis à côté. Je demande avec. Je ne me situe pas dans quelqu'un qui doit apporter une réponse de la part de Dieu ou de quiconque d'autre, mais simplement quelqu'un qui est à côté. Ces questions, je les porte aussi. Ces prières, je les porte. Ce sont nos prières. C'est ça, accompagner pour moi. C'est se tenir à côté de la personne et avancer à son rythme. Donc, ces prières, oui, elles sont miennes aussi. La maladie, c'est vraiment un moment où souvent les grandes questions spirituelles sont posées.
Il y a aussi des moments de joie.
Oui, là, il n'y a pas longtemps, j'étais là quand une maman a donné naissance à sa petite fille. Donc, il n'y a pas de plus grande joie. Il y a les joies quand on arrive à trouver ce que la personne a, quand c'est difficile. Il y a des moments, les plus grandes joies en fait viennent souvent après des moments très difficiles. Quand on s'est juste cassé la jambe et que la jambe est réparée, c'est bien, mais ça paraît presque normal. Tandis que quand il y a eu une grande période d'errance, de recherche et tout ça, alors là, quand on trouve à réparer et à guérir, ou à guérir ou à soigner en tous les cas, ou à vivre avec quelque amélioration, c'est important.
Alors on va retourner dans votre bureau.
Parce qu'à l'hôpital, on guérit beaucoup aussi. Voilà, c'est pas simplement un endroit de souffrance et de mort, c'est aussi un endroit de guérison. Pour moi, être aumônier ou bénévole, l'aumônerie, c'est être là. Voilà. Accompagner la personne, être là comme signe de ce Dieu qui nous accompagne, quelle que soit notre situation, qui est là avec nous, quoi qu'il arrive, faire cette expérience-là, eh bien, c'est très important. parce que l'expérience d'une présence, quand on se sent tout minable, abandonné au fond d'un lit ou souffrant ou des choses comme ça, c'est, enfin voilà, pour moi c'est impossible de laisser quelqu'un souffrir tout seul. Voilà.
On s'attache, vous vous attachez à certains peut-être des patients que vous visitez.
On vit des choses très fortes, hein, ouais. Donc avec des personnes accompagnées, donc forcément oui, ces personnes elles restent dans notre cœur et dans notre prière.
Quand vous rentrez chez vous, elles sont encore avec vous?
Ben oui, c'est une histoire de relation. Bien sûr, on est tout un. Donc, quand je suis pleinement avec quelqu'un, je suis pleinement avec quelqu'un. Et donc, elle fait partie de ma vie.
Cette souffrance, mais aussi ces joies, etc., ce que vous ressentez chez l'autre, fait écho en vous? C'est vous nourrissez de ce que vous-même vous avez vécu dans telle ou telle souffrance, dans votre vie personnelle, familiale ou autre?
Ben oui, bien sûr.
Et oui. On n'est jamais débordé par ça?
Alors ça, c'est une question, ça se travaille. Bon, alors le principe, c'est Maurice Bellet qui a dit ça dans son livre L'écoute, hein, c'est on ne peut pas écouter sans être soi-même écouté. L'écoute, c'est pas simplement être là et attendre, c'est vraiment une écoute active et engagée et bienveillante. Tout ça se travaille parce qu'il y a beaucoup de fuites possibles justement quand on est trop atteint, on n'écoute plus. Mmh. On n'est plus avec l'autre, mais on est débordé par soi-même. Il faut travailler ça avec un superviseur. De temps en temps, ça arrive qu'on soit débordé par l'émotion. Eh bien, dans ce cas-là, on peut partager ça avec la personne qu'on écoute, dire ce que vous me dites m'émeut et me touche. Voilà. Et puis après, on essaye de se recentrer sur l'autre.
Nicole Keller est le parfait exemple d'un engagement qui peut susciter peut-être des vocations ou donner envie de faire du bénévolat parmi vous qui nous écoutez, qui sait. Quoi qu'il en soit, Nicole Keller apporte un morceau de Dieu au chevet des malades. Oui, mais sous quelle forme? Quelle image de lui leur renvoie-t-elle?
Alors, ce que je renvoie, je ne sais pas. Parce que, bon, enfin, j'ai des échos de ce que les gens peuvent me dire, mais bon... ce que j'essaye, moi, de manifester, c'est cet accueil inconditionnel de Dieu. Le fait que c'est un Dieu qui nous rend la liberté, qui nous relève, c'est ce Dieu-là que je veux manifester. Même si je n'en parle pas toujours, puisque je ne suis pas là pour dire aux gens « c'est moi qui ai la vérité, devenez chrétien et vous serez sauvés ». Mais j'essaye de tout cœur de manifester ça, l'accueil de Dieu et... son amour et la liberté qu'il peut donner.
Et ce Dieu dont l'accueil est inconditionnel, n'est-il pas là, au cœur de notre être, au tréfond de nos entrailles? Ou alors peut-être dans la parole d'un proche, d'un inconnu, ou pourquoi pas d'une émission de radio, qui sait? Allez, à bientôt, on se retrouve tout bientôt avec un nouveau C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Bye bye.
Vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Alors, si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org pour la réécoute des podcasts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Si vous voulez le faire depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire depuis les États-Unis, eh bien, il y a un numéro spécial qui est le 1 712 432 9978. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, AWR, pour votre émission en français La Voix de l'Espérance, et vous étiez pour cela en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Prenez bien soin de vous.